Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC est en cours dans le pays. Son objectif est de permettre aux nouveaux majeurs de se faire enrôler. Selon les autorités, l'opération va durer 2 mois. Est-ce que ce recensement a commencé dans toutes les régions du pays? Les zones non sécurisées sont-elles concernées? Quels sont les défis liés à ce recensement? Le Grand Dialogue du studio Tamani pose le débat en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Pour en parler, nos invités sont Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Fousseni Diop de l'AGCAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, Bagabini Keïta, politologue, Cheikh Ouattara du Centre de traitement des données à base d'état civil. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Ouattara, c'est quoi le RAVEC?
Ben, le RAVEC, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil, c'est-à-dire un recensement qu'on a lancé vers 2009, qui était dans le cadre au fait de pouvoir faire les enregistrements d'enrôlement des citoyens à partir des faits d'état civil et reconstituer au fait une base régis population.
Et à partir de quel âge on peut se faire...
Bon, le RAVEC, il n'y a pas d'âge, au fait, au RAVEC. On commence le recensement même avec une nouvelle naissance. Parce que, comme on dit, c'est un recensement administratif à vocation d'état civil. Donc, c'est à partir des faits d'état civil qu'on enroule, au fait, les individus. Donc, même à 0 année, on est enrôlé.
On peut avoir un numéro
d'identification. On peut avoir un numéro d'identification nationale.
Dès la naissance.
Dès la naissance, oui.
Alors, qu'est-ce que cela procure à un individu, le fait d'avoir un numéro d'identification, M. Diop?
Bon, je pense qu'il l'a dit. Le Mali, quand même, dans sa démarche aujourd'hui, est en train d'aller vers une démarche pour sécuriser l'état civil. Donc je me dis que déjà au Mali, on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la ségrégation de l'état civil. Nos actes de naissance, ça circule dans tous les sens et beaucoup de personnes peuvent falsifier ce document-là. Je pense que déjà, c'est la ségrégation de l'état civil. Donc quand on rentre dans la base de données, on devient une personne unique. Donc déjà, je pense que ça, c'est un avantage et ça empêche donc ce doublon, même cette falsification d'identité-là. Donc déjà, je pense que ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je pense que aujourd'hui aussi, aucun document administratif ne s'est fait sans faire appel à ces numéros d'identification unique. Donc le RAVEC, dans ce sens aussi, est très important. Et à chaque fois qu'on fait aussi appel au recrutement ou même au concours au niveau national, je pense que sans le RAVEC, sans le numéro NINA aussi, il est difficile de participer à cela. Donc aussi, par rapport au domaine électoral, ça permet aussi de sécuriser le fichier électoral, à mon avis, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons, et d'avoir une élection transparente aussi dans ce sens-là. Donc je me dis qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir ces numéros et l'État quand même est en train de faire en sorte que chaque Malien ait un numéro NINA.
Monsieur Sango, vous êtes à la tête d'une organisation qui a des représentations un peu partout dans le pays. Est-ce que ce recensement qui est en cours concerne toutes les localités du pays où il y a des personnes ou des localités négligées?
Bon, à notre avis, à ce moment-ci, le RAVEC a démarré dans la région de Koulikoro et de Bamako. Mais les autres régions, on n'a pas l'impression que le RAVEC ait véritablement démarré. Donc nous sommes en train de suivre les opérations. Comme on dit que ça va durer 2 mois, on est en train de suivre pour voir si dans les autres localités, ça va être la même chose que les régions de Koulikoro ou bien les régions, le district de Bamako. Parce qu'il faut aussi compter avec le problème sécuritaire. Aujourd'hui, avec le centre et le nord, ce n'est pas sûr qu'on aille à 100% des localités du centre et du nord concernant le RAVEC. Mais comme on a le représentant du ministère ici, il pourra nous dire si vraiment toutes les localités sont couvertes. Parce que, en tout cas, ça fait des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés pour aller faire le RAVEC dans le centre et le nord aujourd'hui.
Monsieur Ouattara, est-ce que ce processus de RAVEC qui est en cours se déroule normalement sur l'ensemble du territoire?
Ben, ça concerne uniquement les capitales régionales pour l'instant. Parce que, en fait, concernant en fait, la difficulté en fait, sécuritaire, on a eu en fait, à faire des voyages, des missions, dans le cadre, à l'intérieur, dans le cadre en fait, de voir en fait, avec les autorités intérimaires au niveau des différentes localités, de pouvoir les engager. Et cela peut un peu jouer aussi sur l'aspect un peu sécuritaire en fait, de la chose. Et donc, dans le Grand Nord, on a eu à voir Tombouctou et Taoudéni par rapport à ça, en fait, avec les autorités intérimaires.
Et au sud du pays, ça se déroule
partout. Au sud du pays, ça a déjà commencé. Comme, sous réserve, en fait, comme il a si bien dit, bon, moi, je suis au niveau central. Et c'est nous qui avons travaillé, en fait, par rapport à tout ce qui est le déploiement. Et ensuite, le planning en fait, des opérations. Et actuellement, aujourd'hui, toutes les zones au fait, du sud et au niveau central sont déjà envoyées, sont déjà sur le terrain. Et par contre, les régions du nord, eux, ça va débuter vers le 12. Eux, ils vont commencer à partir, puisque c'est la programmation en fait, par rapport au vol.
Les régions du Nord, y compris le Centre ou le Grand Nord seulement?
Le Grand Nord seulement. Parce que
et pour les localités du Centre?
Les localités du Centre, Mopti, il y a déjà en fait, les équipes sur place qui ont déjà commencé à dérouler en fait, les opérations. C'est seulement le Nord que ça démarrera parce que le Nord maintenant actuellement est desservi par vol. Et donc les programmations de vol en fait, par rapport à ça, le 12, les équipes pour le Grand Nord vont partir.
Et concernant le centre spécifiquement, on sait que Mopti a été scindé à la région de Badjangara maintenant. Est-ce que Badjangara, en tant que capitale régionale, le recensement se déroule sur place?
Exactement. Comme on a dit, toutes les capitales régionales, en fait, hein, y compris les Bougouni au niveau du sud et tout, les opérations sont en train de se dérouler, en fait. On a fait les équipes en fonction de toutes ces capitales régionales.
Des citoyens disent souvent qu'ils ont du mal à se faire enrôler. Est-ce que le processus est compliqué, M. Bagabini Keïta?
Bon, écoutez, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord saluer tous les commandes collègues qui sont autour de cette table, mais aussi remercier Sidio Tamani à travers vous, remercier les auditeurs et les téléspectateurs affiliés à Sidio Tamani. Maintenant, je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que le RAVEC n'est pas seulement, si j'entends un peu les uns et les autres, n'est pas seulement un dispositif administratif politique, mais c'est aussi un dispositif sécuritaire et économique. Je m'explique. Je pense que le RAVEC peut effectivement, il l'a dit, sécuriser le vote, ça peut effectivement sécuriser l'état civil. Mais ce qu'il n'a pas dit et qu'il convient d'ajouter, je pense que c'est aussi un dispositif qui peut sécuriser les individus. Et, par exemple, on peut se servir de la falsification de l'identité pour commettre certains forfaits. Donc, dans ce sens-là, c'est un dispositif sécuritaire. Donc, je disais aussi que c'est un dispositif économique parce que si nous sommes enrôlés, si on a un numéro d'identification, je pense que ça peut aussi effectivement être un élément, en tout cas, à appuyer du point de vue économique. Maintenant, est-ce que l'opération est compliquée pour que les gens n'arrivent pas à se faire enrôler? Je pense qu'il faut souligner un certain nombre de choses. D'abord, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire qu'il faut souligner. Donc, c'est possible dans des pays comme le Mali que l'amalgame également soit là. C'est-à-dire que les gens craignent à se faire vacciner. Et je vous prends un exemple. J'ai un neveu qui travaille dans une banque. Donc, ils ont porté leur tenue pour aller approcher les potentiels clients. Donc, tous les commerçants étaient en train de fermer leurs portes. Et ils se posaient la question de savoir, mais pourquoi? Et le lendemain, ils ont eu la chance de tomber sur un commerçant qui les a expliqué, mais nous, on a vu, on vous a vu en tenue. Et puisqu'on vous a vu en tenue, nous avons cru que vous êtes venus nous créer des problèmes.
Et donc, je pense que c'est possible également, s'il y a des difficultés pour le RAVEC, donc les gens peuvent confondre...
Donc c'est un problème de communication.
Oui, justement, il y a un problème de communication, de sensibilisation. Peut-être qu'il faut aussi, qu'il ne faut pas négliger, quoi.
Comme M. Sango Diop, vous êtes dans une structure qui a des représentations également partout dans le pays. Vous avez des retours également de cette population civile. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les Maliens ont du mal à se faire enrôler?
Bon, je pense que le premier problème, c'est d'abord, je pense, le dispositif d'abord qui est mis en place. Parce que déjà, on dit que l'enrôlement va se passer, mais ça va se passer dans les capitales régionales. Imaginez quelqu'un qui doit se... parcourir 300 à 400 km pour arriver dans la capitale régionale pour se faire enrôler, ça peut être une difficulté. Parce que je pense qu'en premier lieu, le premier dispositif, on a fait en sorte que le RAVEC, le dispositif mis en place par l'État, soit encore plus proche des populations. Ça, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Et aussi, il a parlé de problèmes de communication. Je pense que ça aussi, c'est un facteur aussi à noter. Il faut reconnaître que les canaux avec lesquels aussi l'État passe, notamment les radios nationales ou encore les spots qui passent sur la télé, doivent être aussi adaptés aux différentes langues locales pour expliquer un peu le processus et comment est-ce que le dispositif est installé, où c'est installé et comment il est adapté pour moi à chaque région. Je pense que ça aussi, c'est assez important. Donc, du fait qu'il y a cet éloignement-là des populations, ça, c'est un fait. Aussi, je pense, la quantité, je l'ai dit, il faut énormément mettre à disposition ces machines. Si nous étions même sur un rendement spécial, il y a plusieurs années, on peut le dire, les machines ne fonctionnent pas dans les régions. Les besoins sont là, mais les gens n'arrivent pas. Souvent, les populations se déplacent pour venir chercher le service. Mais voilà, à la préfecture, on leur dit non, bon, les machines que nous avons, on n'en a pas. Et aussi, la préfecture aussi a un souci aussi, les ressources humaines, souvent. Je sais que peut-être par rapport à cet enrôlement spécial, ils ont lancé quand même un appel pour recruter des jeunes pour faire ce travail. Mais très souvent, quand ça va se terminer, il faut qu'on puisse mettre un mécanisme qui soit plus durable et pérenne. Donc un Malien qui n'a pas de Nina, qui peut se déplacer tout de suite dans sa commune et aller faire cela. Mais si l'État ne met pas en place un dispositif, ça veut dire que même au sommet de l'État, la chose n'est pas prise au sérieux.
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer que les Maliens ont du mal avec le RAVEC, M. Sango?
Bon, les Maliens n'ont pas de mal avec le RAVEC.
Ont du mal à se faire, faciliter l'accès au RAVEC.
Non, c'est l'administration qui n'a pas mis à disposition les instruments nécessaires pour le RAVEC. Pour mémoire, le RAVEC, il a dit, ça a commencé en 2009. De 2009 jusqu'à 2015, ça marchait. Même si aujourd'hui, les produits de 2009 à 2015 posent problème. Parce qu'avec le recensement et puis la délivrance des cartes NINA issues du RAVEC, vous trouvez qu'il y a des hommes qui portent le numéro des femmes, il y a des femmes qui portent le numéro des hommes. Dans le RAVEC de 2009 à 2015. Un exemple célèbre, c'est le général Chaga Sangaré, sa carte d'identité, sa carte NINA, quand vous prenez, c'est F qui est marqué au lieu de H. Donc ça, c'est des problèmes récurrents du RAVEC. Maintenant, le RAVEC, c'est l'état civil. Et tant qu'il n'y a pas un état civil fiable dans un pays, on ne peut pas dire que les élections seront bien. Parce que le fichier, avant 2013, c'était le fichier issu des races qui était utilisé pour les élections, le recensement à caractère électoral. Mais à partir de 2009, il y a eu le RAVEC. Et puis en 2012-2013, les partis politiques ont dit qu'ils veulent un fichier biométrique. Donc c'est comme ça qu'on a extrait du RAVEC ceux qui sont en âge de voter, les 18 ans ou plus. Mais on remarque que les 18 à 24 ans ne sont pas dans le RAVEC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en plein dans les scolaires. Tous les étudiants du Mali sont à Bamako. Donc quand vous allez dans une région pour dire que vous allez recruter les jeunes, alors que vous ne passez pas par les universités qui sont à Bamako, vous ratez votre cible. Donc ça, c'est un problème majeur. Et aujourd'hui, on va faire le RAVEC spécial pour 2 mois seulement. Pour nous, c'est très insuffisant. 2 mois, c'est très insuffisant. On doit couvrir toutes les localités du Mali, même si c'est avec des groupes aux armées au centre ou bien au nord, mais couvrir toutes les localités du Mali pour que tout le monde soit dans le RAVEC. Parce que le RAVEC, déjà, c'est l'état civil. Tant que l'état civil n'est pas fiable, tout ce qui va découler de cet état civil ne sera pas fiable. Donc aujourd'hui, il est important de voir les universités et puis les équipes qui font le RAVEC. Ce n'est pas les heures traditionnelles pour dire 7h, 16h, on descend. Ce n'est pas ça. Même les week-ends, les équipes doivent travailler. Les équipes doivent aller à la recherche des gens pour les enrôler. Sinon, les Maliens veulent ça. Nous, on a toujours observé le fait que quand il y a, par exemple, la révision ordinaire des listes électorales, là où on doit mettre les jeunes majeurs, on doit enlever ceux qui sont les personnes décédées. Mais il n'y a pas cet état civil fiable. Ce RAVEC n'est pas fiable pour dire que tous ceux qui sont en âge de voter, on les met automatiquement. Normalement, dans chaque mairie, il y a 703 communes en République du Mali. Dans chaque commune, on doit avoir le dispositif du RAVEC. C'est ça la fiabilité de l'état civil. Dès qu'un enfant vient au monde, on l'enregistre. Donc, quand on veut extraire de cette base les électeurs potentiels ou bien les électeurs qui ceux qui ont l'âge de voter, c'est très facile. Mais tant que dans les communes, dans l'ensemble des communes du Mali, il n'y a pas un dispositif fiable qui est relié à un dispositif central au niveau de cette EDEC, on ne peut pas dire qu'on aura des avancées majeures avec cette opération spéciale.
Pour résumer ce que vous venez de dire, manque de machines, parcourir des kilomètres pour se faire enrôler, des erreurs sur les noms. Monsieur Ouattara, est-ce que vous partagez déjà ces manquements soulevés par Monsieur Diop et Sango? Si oui, qu'est-ce que vous proposez pour remédier à tout cela?
Au fait, ce qu'ils sont en train de dire concernant en fait, les machines, c'est des machines au fait, effectivement de 2009 et dont beaucoup d'équipements sont obsolètes aujourd'hui. Mais au fait, l'État a déjà rebondi par rapport à la question et a déjà commandé au fait, 10 000 tablettes de technologie Morpho 2. Et qui vont servir au fait, comme il a dit concernant au fait l'approche du citoyen. Aujourd'hui, ces tablettes sont munies au fait des puces 3G à 4G plus, et qui peuvent faire les enrôlements en temps réel. Et ensuite, comme on a dit au fait dans le concept du RAVEC, la troisième phase. En réalité, le RAVEC c'était composé au fait de trois phases. La première phase, c'était le recensement de toute la population. La deuxième phase, c'était la pérennisation, mettre au fait les services au niveau des mairies et au niveau des centres d'état civil et pour pouvoir au fait remonter les données au niveau central. Maintenant, la troisième phase, après l'épuration de la base, ça c'était de mettre au fait le logiciel, une application de gestion de fait d'état civil et qui va remonter au fait, les données jusqu'au niveau du centre. Donc tous ces dispositifs en réalité sont déjà au fait, dans la vision déjà. Et quand je dis dans la vision, c'est du concret parce que déjà on est sur la migration au fait, d'un nouveau plateau que l'État a mis plus de 12 milliards au fait, là-dedans, avec 10 000 tablettes déjà qui sont parvenues au niveau de chez nous. Et ces 10 000 tablettes-là sont prêtes. Mais les opérations, comme vu, au fait, l'urgence aussi des opérations concernant la mise à jour du fichier électoral, il est impératif, au fait, de partir, au fait, avec ça. Et ensuite, après, les tablettes vont accompagner.
Est-ce que des personnes sont formées pour l'utilisation de ces tablettes-là?
Exactement. Nous avons, comme ils l'ont si bien dit, il y a un manque de ressources, comme ils l'ont dit. Mais au fait, on a, parce qu'avec une expérience de 2009 à maintenant, on a pu vraiment acquérir beaucoup d'expérience et pouvoir rebondir au fait sur les failles qu'on a au niveau de. Et par rapport à ça, nous avons fait des recrutements et nous sommes actuellement en train de faire beaucoup de formations dans le cadre des spécialisations dans les métiers de l'état civil. Et je pense que au fait. Déjà dans notre vision, et on va aller au-delà au fait au-delà de tout ça, parce que ce qu'il a dit concernant les décès et au fait au niveau du fichier électoral, on est dans la vision au fait de pouvoir créer au fait des API qui sont des applications d'interfaçage qui vont permettre au fait à la DGE délégation générale des élections d'être connectée directement en fait à la base. Et en ce moment, les échanges vont se faire souvent très sécurisés et pouvoir permettre au fait de faire la mise à jour au fait du fichier de l'état civil. Comme il a dit, ça découle au fait le fichier de l'état civil, le fichier électoral découle de ça. C'est un peu ça au fait la vision.
On remarque ces temps-ci que les Maliens vivant à l'extérieur ont un problème avec le RAVEC. Pourquoi ces Maliens-là ne parviennent surtout pas à se faire enrôler, M. Keta? Qu'est-ce qui peut expliquer ces problèmes tant suscités dans la diaspora à cause du RAVEC?
Bah, écoute, avant de parler en tout cas de la difficulté au niveau de la diaspora en ce qui concerne le RAVEC, je voudrais quand même insister aussi d'abord de manière générale sur, notamment à l'intérieur du pays. Je pense que j'ai parlé de manque de sensibilisation, d'information de la population, ça c'est évident. Même si vous mettez un dispositif, tout le monde est d'accord que c'est un bon dispositif, ça c'est pas le problème. Mais si vous mettez un dispositif en place, qu'il soit temporaire ou qu'il soit pérenne, je pense qu'il faut que les gens soient informés. Vous prenez par exemple le cadastre qui permet en tout cas d'enregistrer le foncier des gens. Vous avez beaucoup de malins n'étaient pas au courant que le cadastre existe, à quoi ça sert, quelle est l'utilité. Donc je pense qu'il faut mener beaucoup de débats autour de ça. Donc si vous ne le faites pas et que vous mettez les dispositifs en place, vous dites qu'au niveau des communes, il y a des équipes pérennes qui sont là donc pour enrôler les gens, mais si les gens ne sont pas au courant, ça ne sert à rien, donc ça sera des dépenses inutiles pour l'État. Donc je pense qu'il faut, lui-même, si vous écoutez M. Ouattara, le fait qu'on centralise le RAVEC au niveau des capitales régionales et Bamako seulement, c'est parce qu'effectivement, l'État lui-même est conscient du fait que le pays n'est pas sécurisé. Et déjà, si au niveau des autorités, on est conscient de l'insécurité qui mine le pays, évidemment, les citoyens auront peur aussi quoi, d'aller se faire enrôler au risque pour ne pas se faire, en tout cas, ne pas avoir de problème, je ne dirais pas forcément. Donc, il y a des problèmes sérieux, sans compter que nous sommes aussi dans un... L'insécurité n'est pas que guerrière, l'insécurité n'est pas que sanitaire, il y a ce qu'ils appellent aussi l'insécurité alimentaire. Les Maliens découvrent quotidiennement derrière leur pain. Donc, à la recherche de pain, donc les gens se moquent éperdument du RAVEC, quoi. Donc, il faut aller vers les gens, je pense que, pour les faire enrôler. C'est utile pour les gens, c'est utile pour l'État, pour la stabilité de notre pays. Maintenant, en ce qui concerne le cas spécifique de la diaspora, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de la diaspora. Quand tu te fais enrôler, mais au bout du compte, tu n'as pas la carte NINA. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi ? Il y a des gens qui expliquent que c'est dû au fait que la carte NINA, au lieu d'être fabriquée au Mali, donc on voit que c'est fabriqué à l'étranger. Et mieux que ça, il y a aussi une manipulation politique à ce niveau-là. Il y a donc des gens qui sont en relation... Vous savez, les enjeux de pouvoir sont tels que ceux qui sont au pouvoir donc veulent se faire sécuriser tout le temps, en croyant qu'en se faisant succéder par un tel, on est mieux en sécurité par rapport à lui que par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, on fait en sorte qu'on cible les zones électorales. On s'est dit, bon, telle zone, par exemple, en 2018, on sait très bien qu'il y avait, comment dirais-je, une détestation, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de contestations au niveau de la diaspora quant à la gestion du pays. Donc, la diaspora a beaucoup décrié la gestion, comment dirais-je, de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Et du fait qu'ils ont fait cette critique contre le pouvoir, on a estimé que, donc, en enrôlant, en donnant la carte à beaucoup donc, de Maliens de l'extérieur, donc ça va donner la possibilité de se faire battre par le camp adverse. Donc, on donne plus de voix au camp adverse. Donc, au fait, on n'est pas là pour faire un travail à long terme, mais très généralement, on est dans des calculs politiciens et qui fait que les uns et les autres se trouvent dans des situations telles qu'ils sont bloqués. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de crises au niveau de la diaspora par rapport à la carte NINA.
Je vous rappelle que ce numéro du Grand Dialogue est réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Monsieur Sango, qu'est-ce qui explique cette difficulté aux Maliens après l'enrôlement d'avoir accès à la carte NINA?
Parce que le service n'est pas là. Le service n'est pas là. Vous savez, on a parlé du recensement de 2009 jusqu'à 2015. Et quand on voit, par exemple, les élections de 2013, l'élection présidentielle, les élections législatives, c'était sur la base de la carte NINA. Parce que là, le RAVEC a été fait de 2009 à 2015 et les cartes NINA étaient disponibles. Donc l'État donnait les cartes NINA aux populations. Mais à partir de 2015, la délivrance des cartes NINA a été arrêtée. Si je m'abuse, à partir de 2015. C'est pourquoi, en 2016, lors des élections communales, les gens ont voté avec les cartes d'électeurs au lieu des cartes NINA. Donc, aujourd'hui, quand vous vous faites enrôler pour avoir votre carte NINA, ou même ceux qui ont perdu leur carte NINA, qu'ils veulent renouveler leur carte NINA, n'ont pas. Ils n'ont pas. Le service n'est pas là, en réalité. Donc, et si on suit tout le développement fait par le CETEDEC par rapport à ce qu'on voulait par rapport au RAVEC, mais de 2009 à aujourd'hui, jusqu'à présent, ce n'est pas, rien n'est fait. Rien n'est fait. C'est-à-dire que rien n'existe. En 2016, pourquoi on n'a pas voté avec les cartes NINA? Parce que la délivrance des cartes NINA a été arrêtée. Et on a préféré les cartes d'électeurs. En 2018, il y a eu l'élection présidentielle, on a préféré les cartes d'électeurs. En 2020, il y a eu les élections législatives, on a préféré les cartes d'électeurs. Parce que le service des cartes NINA n'était plus disponible. Donc c'est ça le problème majeur. Si l'État ne met pas à la disposition déjà les cartes, c'est difficile. Et même avant ce recensement, ce RAVEC spécial-là, mais pour se faire enrôler, les jeunes partaient dans les mairies, à Bamako par exemple, et à 2h du matin, la liste était bouclée. On choisit 20 et chacun paye quelque chose pour se faire enrôler. Donc c'est ça la difficulté majeure. Quand le service n'est pas là, le service n'est pas à la disposition de la population. Et aujourd'hui, dans aucune commune, j'ai dit il y a 703 communes. Dans aucune de ces 703 communes, il n'y a pas
de dispositif. Et on vise d'avoir au-delà parce qu'il y a eu des nouvelles régions créées.
Il y a eu des nouvelles... D'ailleurs, les nouvelles régions ne sont même pas concernées par cette opération spéciale. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'il y a eu la table ronde entre les partis politiques du ministère de l'administration territoriale et de la société civile, et où les gens ont dit qu'il faut prendre en compte les nouvelles régions dans les prochaines élections. Le ministère a fait sortir un document en mars pour dire que c'est le statu quo. Le statu quo, ça veut dire quoi? C'est les 49 cercles et les 6 communes du district de Bamako, les 8 régions. Donc ça veut dire que les 19 régions ne sont pas concernées par les futures élections. Donc ça aussi, c'est un problème. Et les populations spéciales de RAVEC, c'est les 49 cercles et les 6 communes. Mais même ça, ce n'est pas à 100%. Parce que quand on voit l'effectivité aujourd'hui, 2 mois d'abord, c'est insuffisant. Le déploiement des équipes se fait à pas de tortue. En tout cas, ce n'est pas visible pour nous. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, on n'a pas vu un déploiement massif des équipes sur le terrain. Donc tout ça, c'est problématique. Et pour nous, au lieu de faire une opération spéciale de 2 mois, il faut installer dans chaque commune, dans chacune des 703 communes, le dispositif d'enrôlement au RAVEC. Parce que le RAVEC, c'est d'abord l'état civil. Ce n'est pas pour les élections. C'est l'état civil des Maliens. Et chaque Malien, de 1 jour jusqu'à 100 ans, doit être dans ce RAVEC, dans cette base de données. Et ce doit être un dispositif permanent. Sinon, on va rejoindre ce qu'on a connu en 2016, où on dit, bon, parce qu'il n'y a pas de la disponibilité du RAVEC et tout, on retourne aux cartes d'électeurs.
M. Sango disait tout à l'heure, M. Ouattara, que la carte NINA n'est plus disponible depuis 2015. On ne parvient pas à l'avoir.
Non.
Depuis 2015. Est-ce vrai ou qu'est-ce qui explique cette situation?
Non, ce n'est pas exactement ça. Au fait, en réalité, il y a eu des impressions. Des impressions ont été faites après 2015. Ça a été fait en 2018, en 2019.
Et on est en 2021.
Oui. Maintenant, je vais un peu rebondir sur un peu l'historique du RAVEC. Au fait, la carte NINA, dont beaucoup de gens sont en train de se concentrer énormément, en réalité, la carte NINA, c'est une carte qui était sortie à l'époque. C'était pour une situation provisoire, d'accompagner, au fait, les élections. Et avec le fichier biométrique. Donc maintenant, ils ont fait la carte, on a fait la carte NINA. Ensuite, il y a eu, au fait, ce décret qui montre que la carte d'identité et la carte NINA sont les mêmes. Ça, c'est dans une vision politique de pousser les gens vers le recensement administratif à vocation d'état civil. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que, à but électoral, les gens ne se recensaient pas, en réalité. Et donc maintenant, en faisant un décret qui essaie de normaliser ça, ça a poussé énormément, au fait, sur la carte NINA. Quand on parle concernant les Maliens de l'extérieur, vous allez voir que sur le taux d'enregistrement au niveau du RAVEC, c'est très élevé. Parce que pourquoi? Parce que le passeport est lié au RAVEC. Donc ça, c'est ça qui pousse au fait la population vers ça. Mais par contre, au niveau intérieur, nous avons un faible taux, parce que ça, c'est dû au fait que la population, au fait, n'est pas conscient, au fait, beaucoup plus de l'importance de l'état civil. Parce que le Mali, au fait, est dans la vision de numérisation de l'état civil. Et cette numérisation, comme il a si bien dit, ça permet d'optimiser. Et ça permet d'économiser. Mais comme il a si bien dit, il a oublié un aspect qui est très important. La dématérialisation va nous pousser, au fait, à l'administration d'investir moins dans le papier. Parce qu'avec un identifiant, comme je l'ai dit, on part avec la vision API qui va permettre aux autres institutions d'être en interopérabilité avec le centre de traitement des données. La santé peut faire les statistiques sur la population. La police peut gérer la résidence à distance. Le fichier électoral, la mise à jour est faite directement. Le passeport, avec l'identité seulement, on n'a même pas besoin de se traîner avec une fiche pour aller. C'est déjà, au fait, à partir de l'identifiant, on peut savoir ce que vous avez. Vous avez un permis, vous avez un truc. On peut retracer, au fait, tout ce que vous avez, au fait. C'est la vision par rapport à ce que l'État est en train de faire. Mais comme on est en train de... Quand vous partez dans les autres pays, où j'ai fait beaucoup d'études, des voyages d'études, dans le cadre, au fait, de voir d'autres modèles, le choix technologique que le Mali a pris, c'est le meilleur choix.
C'est le meilleur choix, mais le meilleur la choix. Carte Nina, non, la difficulté de
la carte Nina,
je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas?
Je vais en venir à la carte Nina, parce que la carte Nina, en réalité, déjà, on est dans l'aspect de la CEDEAO. Et on a déjà une carte CEDEAO. Le Mali est un membre de la CEDEAO. Il y a eu déjà des voyages d'études qui sont partis au niveau du Sénégal, dans le cadre de voir le modèle. Et de voir dans d'autres pays de la sous-région. Et le Mali est dans la vision de faire une carte CEDEAO, de partir vers, par rapport à ça. Parce qu'en réalité, la carte NINA, quand vous regardez la carte NINA, je vais en venir, quand vous regardez la carte NINA, il n'y a pas toutes les informations au fait de la personne sur la carte NINA. Vous allez voir que la carte NINA s'arrête juste au niveau de la commune. C'est pour vous dire que c'était dans le cadre du but électoral. Maintenant, comme il a si bien dit, on est en train de s'équiper, on est dans la vision de s'équiper pour pouvoir faire des impressions locales et avoir, au fait, dans le même cadre de la charte, la charte graphique de la carte, au fait, CEDEAO. C'est pourquoi, en réalité, dans la vision, on ne se décarcasse pas.
Faire nous-mêmes ces impressions.
Voilà, on ne se décarcasse pas énormément sur la carte NINA parce qu'en réalité, cette carte-là, et dans l'avenir, sera pas utilisé, au fait. Ce n'est même pas dans la vision. Parce que quand vous regardez, et comme je l'ai si bien dit, c'était à but électoral. Quand vous regardez, ça s'arrête au niveau de communes. Beaucoup de gens même venaient.
Monsieur Diop, je vous vois, vous voulez parler. Est-ce que vous êtes d'accord que cette carte NINA puisse s'arrêter là, on court derrière, on veut changer de nouveau encore?
Mais on avait la carte d'identité biométrique qui avait été instaurée, où il y avait eu un marché, il y a eu un problème, au fait, dans le marché, au fait, dans l'attribution du marché. Mais aujourd'hui, tous ces pays-là sont en train de partir. Parce que la carte NINA, même quand on part au niveau... Par exemple, j'ai été avec l'autorité sénégalaise. Ils se sont énormément plaignés de la carte parce qu'ils se sont dit « Votre carte-là, il n'y a pas de durée de validité. » Et ce qui fait que au niveau de vos citoyens, et on a arrêté énormément. Et quand ils ont présenté leur carte, ben nous, on a dit, ça signifie rien pour nous, parce qu'il n'y a pas de durée de validité. Ce qui montre déjà que, au fait, c'était une solution provisoire. C'est ce que les gens n'arrivent pas.
Okay,
ce qui est important...
Bien compris, M. Ouattara, la parole à M. Diop, qui a envie de...
Un petit mot.
OK, deux secondes, allez-y.
Voilà. Petit mot-là, c'est quoi?
Oui.
C'est qu'en réalité, ce qui est important, c'est de se faire enrouler et d'avoir ses données dans la base RAVEC. Maintenant, l'utilité viendra. C'est ce qui est important.
Monsieur Diop, vous partagez cet avis-là?
Moi-même, je me perds. Je me perds dans le sens où, on me dit que elle n'est pas importante, maintenant elle va peut-être... peut-être qu'elle sera provisoire c'est un dispositif provisoire. Mais je me dis que, au fait, on fait leur avec, mais on le fait aussi pour avoir la carte NINA. Au fait, il vient de dire que peut-être les autorités sénégalaises... Je viens juste d'une mission de la Côte d'Ivoire. J'ai voyagé avec ma carte NINA.
Mais les autorités...
J'ai pas de passeport. Donc, aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, il est possible pour toi de prendre un vol et de te rendre avec seulement ta carte NINA et le billet. Bon, pour le Sénégal, peut-être on en dira. Donc, du coup, je me dis que la carte, quand même, elle est importante. Et dire aujourd'hui que nous sommes au 21e siècle, le Mali est indépendant depuis 1960, on ne peut pas imprimer une carte au Mali. Au fait, c'est impensable, sincèrement parlé.
et que les autorités aussi ne prennent pas des mesures pour pallier à cela. Ça, je ne peux pas comprendre. Il dit qu'il y a eu des impressions. Oui, il y a eu des impressions. Mais toutes ces personnes qui ont fait leur RAVEC...
Non, pas qu'il y ait des impressions. On se prépare à faire des impressions localement.
Par rapport à... Mais il dit que dans la période où... Parce que ça, on a dit que depuis 2015, on n'a pas eu de distribution. Maintenant, s'il y a eu... Mais qui a eu sa carte?
Mais la distribution, elle est faite au niveau de... Parce que le problème...
Lorsqu'on a arrêté le dispositif, nous, on s'est renseigné sur le terrain. Les cartes qui étaient dans les régions ont été acheminées à Bamako. On est même allé au ministère par rapport à cela. Et d'autres citoyens ont même perdu. Aujourd'hui, ils ne retrouvent même pas leurs cartes. Donc, du coup, aujourd'hui, tu as une erreur difficile d'enlever. Parfois, tu es Adama, tu es une dame, mais on met un H, comme Sango l'a dit. Difficile d'enlever ça. Donc, du coup, comment est-ce que le citoyen peut se rassurer que quand je viens vers le service, il dit qu'il n'y a pas une prise de conscience. Il y a bel et bien une prise de conscience. Si les jeunes se réveillent à 2h du matin, à 5h du matin pour être dans les mairies et qu'encore ils se rendent, ils n'ont pas accès au service, encore il y a des faux frais qu'on exige aux gens pour qu'ils payent pour être dans ce système-là. Donc, du coup, ils ont quand même beaucoup de raisons à être réfractaires à cela. Donc, aussi, il a dit que la sensibilisation doit continuer, mais je pense que ça doit aussi être des campagnes terrain où on part aussi à cela. Sinon, nous, en tant que société civile, nous sommes en train de faire des sensibilisations. On descend sur le terrain pour informer. Il a aussi parlé d'horaire. Je pense que c'est énormément important parce que ce temps-là spécial aussi, c'est pour les 18 ans. Faire en sorte que ceux qui ne sont pas dans la base de données puissent rentrer et que ceux qui n'ont pas aussi terminé le fait de prendre leurs empreintes, de prendre aussi les photos, de pouvoir le faire. Mais à 7h, de 7h à 16h, ils sont où? Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Donc, et ils sont campés dans les mairies, dans les capitales régionales. Les jeunes sont à l'école et on dit que c'est fait pour eux. Je me demande si c'est vraiment exactement pour eux. Donc, du coup,
L'autre défi pour ces élections, ce sont pour cet enrôlement, ce sont les élections qui doivent se dérouler d'ici 2022. Voilà. D'aucuns parlent de 5 élections, d'autres parlent de 6 élections à venir. Quel peut être le rôle de ces enrôlements, M. Keïta?
Oui, écoutez, avant de répondre à cette question, moi, je voudrais revenir un peu à M. Ouattara. Je pense que nous, intellectuels, nous qui sommes allés à l'école, ça sont restés modestes. Parce que chaque fois, on a l'impression que nous, on pense que ceux qui n'ont pas été à l'école ou qui ont moins étudié que nous ne sont pas intelligents. Je pense que nul n'a le monopole de l'intelligence. Les petits citoyens ont bel et bien conscience de l'intérêt de la carte NINA. Mais comme le commanderait ça... Non, je pense qu'il n'y a pas de l'État.
Mais le début de toute chose est difficile également.
Ce qu'ils appellent l'apathie politique. Par apathie politique, c'est-à-dire qu'il y a un désintérêt ou sinon une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc, ce qui fait que tout ce qui vient du gouvernement, les gens ne le prennent pas au sérieux. Parce que les gens vont se dire, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien pour eux. Ça sert bien à quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas confiance. Donc, il y a une crise de confiance. Et là, la crise de confiance vient d'où? Ça vient de la mauvaise gouvernance. Et je pense qu'on ne peut... Bon, enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas politique, mais vous dites que les gens n'ont pas conscience.
C'est un réel, parce que...
Je vous en prie. Les gens ont bel et bien conscience. Mais je dis seulement, je vous explique, c'est pas parce qu'ils n'ont pas conscience, mais c'est parce qu'ils ne font pas confiance à ceux qui leur proposent les services. Le gars, Monsieur Diop a parlé effectivement de paiement de faux frais pour le retrait de la carte. Non, mais il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, vous voyez, il y a la corruption aussi qui fait que les gens se méfient des opérations de ce genre. Okay. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, le RAVEC, moi, je trouve que c'est... Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une mauvaise. Moi, j'ai reconnu que c'est une très bonne chose, le RAVEC. Mais il faudrait, non seulement il faudrait qu'il y ait des équipes pérennes, mais il faudrait aussi qu'il y ait des équipes mobiles. Uh-huh. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les citoyens. Donc, rassurer les citoyens, les motiver, les mobiliser, c'est-à-dire aller vers eux de telle manière qu'ils se fassent enrôler. Parce que c'est ceux qui ont la charte du pays, c'est eux qui ont la responsabilité de gérer le pays. Et donc, aucun effort n'est à épargner pour faire en sorte que le pays soit bien géré. Maintenant, par rapport à votre question, le RAVEC ou ce recensement-là, son importance pour les élections à venir, je pense qu'il y a une très grande importance pour ça. Mais si on ne fait pas attention, moi, dans 2 mois, je me demande combien de Maliens se feront enrôler avec tous les problèmes que nous connaissons. Et donc, on risque de se retrouver dans des élections bâclées. Et si les élections sont bâclées, donc, on risque effectivement de se retrouver encore dans des crises post-électorales qui ne sont pas souhaitables. Mais En réalité, c'est nous, consciemment ou inconsciemment, ce sont nos actions, ce sont nos mots qui contribuent en tout cas à créer ces crises-là. Et nous devons prendre conscience de cet état de fait, les corriger, et de telle manière que vraiment le pays ne se retrouve pas dans une autre crise. Mais je n'en suis pas sûr.
Est-ce que ces cartes d'électeurs pour ces nouveaux majeurs seront confectionnées à temps avec tout ce que vous venez de soulever pour, en vue de ces élections à venir d'ici 2022, Ibrahima Sango?
Bon, je pense qu'il faut rectifier quelque chose au cours de ce débat. Et par rapport à la distribution massive de cartes NINA après 2016, nous en doutons. Nous en doutons
Monsieur
pourquoi.
Sago, il est presque à terme.
Ok, non, je voudrais dire.
Le débat arrive presque à terme, si vous pouvez répondre à cette question.
Si, le plus grand taux de participation au Mali, c'est avec les cartes NINA. 49%, premier tour, la présidentielle de 2013, parce qu'il y a eu les cartes NINA. Et après ça, il n'y a pas eu de cartes NINA. C'est pourquoi il y a eu les cartes d'électeurs. C'est très important parce que quand vous prenez les 18-24 ans, ils sont 12% des fichiers électoraux en République du Mali. C'est pourquoi on veut faire les RAVEC spéciales. Ils sont 12%. Mais ils sont très importants pour que les jeunes puissent participer aux prochaines élections. Mais si le recensement spécial se fait sans les jeunes, on se pose des questions. Et s'il n'y a pas de pérennité du RAVEC, on se pose des questions.
Monsieur Sango disait que les jeunes font 12% de la population. Est-ce que ces 2 mois suffiront pour leur enrôlement, Monsieur Diop?
C'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans le sens où 12 mois, on a déjà bouffé quelques jours. Dans les 2 mois, on a déjà pris quelques jours. Donc, du coup, déjà, l'opération, ça traîne. Il a dit que le dispositif n'est pas sûr d'avoir toutes les capitales régionales. C'est aussi un handicap. Quand est-ce que ce dispositif sera mis en place, pérenne, et qu'ensuite la situation de sensibilisation va essayer de se faire? Je pense qu'on est en retard par rapport à ça. Mais dans les 2 mois, ils doivent mettre le paquet par rapport à cette communication. Mais on a parlé aussi du fait de faire en sorte d'être encore plus proche des populations pour qu'on puisse le faire. Parce que je me dis aussi, il faut aussi faire en sorte que les légitimes traditions, notamment les imams, notamment qu'on appelle les chefs de quartier et tout ça, puissent être informés pour relayer l'information au niveau de la population. Et ça, on va dire un aspect qui est assez important, de faire en sorte aussi que les week-ends, qui sont aussi des moments où ces jeunes-là aussi ne perdent pas à l'école, puissent aller vers ces services-là. Je pense que nous, quand même, en tant que société civile, nous allons rapprocher le ministère dans ce sens-là pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons quand même, nous, à notre niveau, faire apporter notre touche afin que ça soit un succès. Sinon, les 2 mois sont insuffisants et les dispositifs mis en place aussi, je pense, ne couvrent pas l'étendue du territoire et n'est pas aussi adapté aux cibles qu'on souhaite enrôler pendant cette période.
L'autre difficulté que nous avons actuellement, c'est la pandémie à COVID-19 qui parle d'enrôlement, parle d'attroupement. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, vous avez prévu une stratégie mise en place pour qu'il n'y ait pas d'attroupement, pour que les gens puissent se faire enrôler sainement?
Bon, au fait, pour la pandémie, oui, concernant en fait, les TDR qu'on a conçus pour les opérations, il est prévu au fait un budget qui, dans le cadre au fait de la pandémie, mettait au fait la population, protégeait la population contre au fait, mettant des dispositifs au fait par rapport à ça. Mais par contre, comme je l'ai dit au fait concernant encore la carte, les demandes de cartes perdues et les personnes qui ont qui n'ont pas été pris en compte pendant les opérations à grande envergure de 2009, parce qu'il y a des omis jusqu'à présent qui n'ont pas été enroulés. Et ces demandes-là sont déjà au niveau de la base de données.
Allez-y, il ne reste qu'une minute.
Voilà, déjà au niveau de la base de données, ces gens-là sont déjà pris en compte. À chaque fois qu'on fait une impression, eux, ils sont déjà pris. Et les demandes, y compris les demandes, en fait. Maintenant, la distribution de la carte. Quand il dit que la carte a été confectionnée pour 2015 et que la carte...
La production s'est arrêtée en 2015, d'après ce qu'il dit. Au-delà de 2015, il y a eu des distributions.
Il y a eu la confection de la carte.
On est presque à terme de ce débat. Je veux vous demander, certes, on parle d'enrôlement des nouveaux majeurs. Monsieur Ouattara, s'il vous plaît, nous parlons de l'enrôlement des nouveaux majeurs pour les futures élections. Quelle peut être aujourd'hui la stratégie pour booster le taux d'enrôlement aujourd'hui? Je commence par vous, Bagabini Keïta.
Oui, mais moi je
en
dis
quelques
que,
secondes, 10 secondes.
Non, j'ai dit qu'il faut des équipes mobiles pour aller vers les populations 1, 2. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que quand vous dites qu'effectivement en 2018, on a voté sans la carte NINA, mais c'est que l'obtention de la carte électorale a été conditionnée à la détention de la carte NINA. Ce qui a joué, c'est le taux de participation.
Monsieur Sango, que peut être aujourd'hui la stratégie pour booster le taux d'enrôlement durant cette opération de RAVEC qui va durer 2 mois?
C'est de mettre en place des équipes mobiles et de s'adresser vraiment aux cibles qui ne sont pas dans les capitales régionales, mais dans les universités, dans les écoles. Il faut aller là-bas.
Monsieur Diop, c'est exactement ce que vous voulez dire.
Je pense qu'il faut aussi faire en sorte de vraiment impliquer davantage la société civile. Et aussi, il y a des acteurs terrain, les associations sont là. L'État n'a pas se servir de ce mécanisme pour faire en sorte de diffuser encore plus d'informations. Et ce que Sango a dit, il faut le répéter.
Merci beaucoup, Fousseni Diop. C'est ce qui met fin à notre émission, le grand dialogue consacré au recensement administratif à vocation d'État civique à RAVEC. Un grand dialogue réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Ils étaient avec nous, M. Cheikh Ouattara du Centre de traitement des données à base d'état civil. Merci. M. Fousseni Diop, Bagabini Keïta et Dr. Ibrahima Sango. Je suis Mariam Maïga. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Gmondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.